L'art et le musée. Une collection de Dominique de Fonréau.
Le confinement imposé par la pandémie de la Covid-19 a révélé, ce fut un de ses très très rares avantages, l'attachement fort des publics aux musées et à leurs projets. Bien qu'alors, on s'en souvient, toutes les institutions fussent alors fermées, le désir de musée subsistait. Très vite, dès la fin du mois de mars 2020, les institutions muséales ont, malgré la complexité de la situation, mis en œuvre et en ligne des projets. Visites virtuelles de collections et d'expositions, conférences en ligne, ateliers tutoriels pour petits et grands, commentaires filmés d'œuvres, notamment. À côté de cela, un véritable travail d'éditorialisation avait été mené par les musées, sur le modèle des médias, celui de la radio en particulier. Le succès rencontré par ces programmes a été manifeste. Il a permis de faire tomber quelques barrières au sein des musées eux-mêmes, qui regardaient jusqu'alors la virtualité avec une distance soupçonneuse. Elle ne semblait ne constituer, aux yeux de beaucoup, qu'un artifice et surtout faisait craindre le risque d'une substitution de la virtualité à la réalité du musée. Ce ne fut pas le cas. Dès que cela fut possible, les visiteurs virtuels, qui avaient suivi en ligne les projets des institutions, revinrent au musée, admiraient les œuvres et les lieux en vrai. Virtuel et réel ne s'opposaient donc pas, épuisaient l'un comme l'autre à l'imaginaire du musée, terrain de jeu et d'expérimentation où se mêlent de nombreuses histoires. Le récit du musée, les récits des musées, étaient au cœur de la réflexion. Les projets mis en œuvre depuis 2020, au sein de nombreux musées, ont souligné la maîtrise plus aboutie de l'outil numérique pour concevoir des projets de nature différente, tout en les ancrant dans la vie réelle du musée, en lien avec les projets d'accueil et de médiation. En parallèle, la conception d'une création artistique, numérique et virtuelle s'est développée. En début de cette année, le Centre Pompidou a annoncé l'acquisition de 18 œuvres et projets NFT, Non-Fungible Token en anglais, jetons non-fongibles en français, soulignant l'engagement du musée pour le soutien de toutes les conceptions artistiques. Pour parler de ces enjeux associant le récit du musée, mêlant réel, virtuel, imaginaire, pour souligner aussi que l'idée de virtualité au sein du musée n'est pas neuve, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, et Philippe Bettinelli, un des conservateurs de la collection vidéo et numérique du Centre Pompidou. Un des premiers points sur lequel j'ai envie de parler avec vous, c'est cet enjeu de la narration au musée, la manière dont il y a finalement une sorte de récit des œuvres, ou beaucoup de récits des œuvres, et un récit du lieu. Marie Lavandier, vous dirigez le musée du Louvre-Lens, et une des spécificités hein, de la Galerie du Temps, c'est d'avoir une forme de singularité du récit, que vous avez au fil des années presque imposée, hein, cette manière de dérouler le grand récit d'humanité.
Oui, tout à fait. La Galerie du Temps, qui est un petit peu le cœur du réacteur, comme j'aime à le dire, du musée du Louvre-Lens, a proposé d'emblée une muséographie très originale pour répondre à ce qu'était l'enjeu fondamental pour moi du musée du Louvre-Lens, qui était de s'adresser à un public pas habitué des musées, un public par ailleurs localement frappé par une récession économique très très difficile, et un public, comment dire, comme le territoire d'ailleurs tout entier, meurtri dans sa fierté et très interrogatif quant à sa légitimité comme justement usager de musée. Et à ça, la Galerie du Temps, imaginée par à la fois les architectes de l'agence Sana, Adrien Garder à la scénographie, et puis les équipes du musée du Louvre à l'époque, donc au milieu des années 2000 à peu près, apportait une réponse que je trouve et que j'ai expérimentée depuis 6 ans et demi que je dirige ce musée, absolument magistrale. Il y a environ 200 œuvres qui s'échelonnent sur 5000 ans, qui sont situées dans un espace qui a annihilé, fait exploser, fait disparaître tous les codes habituels, qu'ils soient spatiaux, qu'ils soient intellectuels aussi, du musée, puisque ces œuvres s'articulent par ordre chronologique et avancent dans un espace unique de 3000 m² vers le visiteur qui s'apprête à y plonger. Alors le récit, on retrouve bien sûr la chronologie, même si elle est relativement diffuse, de facto. Cette chronologie, elle est limitée, rompue, enrichie par le fait qu'il n'y a plus de cloisons, il n'y a plus de simèzes, et donc les œuvres dialoguent visuellement à des siècles, à des millénaires même de distance. Et puis surtout, un jeu s'établit avec le visiteur, mobilise son intelligence, y compris d'ailleurs son intelligence corporelle, son intelligence physique. On a une expérience de liberté, une expérience de regard neuf qui permet à chacun de vivre, de comprendre l'histoire, le fait qu'il y a sa place, le fait qu'il en est un acteur aussi. Puisque ce qui me semble intéressant dans la question que vous posez, ce récit du musée, c'est qu'en vérité, on n'est pas dans un récit, en tout cas au sens où il y aurait un émetteur et un récepteur. On est dans un récit co-construit à chaque visite, dans un récit co-construit à chaque muséographie, dans un récit co-construit justement entre le corps, le matériau et l'imaginaire, l'intelligence, le souvenir aussi de chacun. Et un récit où c'est vraiment un credo fort pour ce qui me concerne dans ma pratique muséale, où le visiteur a toute sa place.
Philippe Bettinelli, au Centre Pompidou, par essence, hein, au moment où il s'est créé, c'est l'idée du forum, hein, c'est l'idée de la multiplicité, de la variété, et c'est vrai que c'est toujours acteur aujourd'hui. Peut-être ce récit du musée, comment vous le caractériseriez pour le grand musée d'art contemporain qu'est le Centre, qui n'est pas d'ailleurs seulement qu'un musée d'ailleurs.
Oui, je pense que ce fait que le Centre Pompidou n'est pas qu'un musée est très important pour comprendre les récits qui s'y jouent. Dès la création de cette institution, il y a l'idée que plusieurs points de vue vont cohabiter, parfois se confronter, en tout cas permettre de couvrir notre monde contemporain et notre histoire récente de la manière la plus complète possible. Au sein de cet ensemble, le musée a un rôle particulier puisqu'il a cette mission de revenir sur une histoire de la création moderne et contemporaine, et ce, dès le fauvisme, dès 1905. Une partie de l'histoire de l'art qui est complexe, hein, l'histoire des avant-gardes est une longue histoire à laquelle tout le monde, avec laquelle tout le monde n'est pas familier. Donc il y a ce besoin de retracer cette histoire et puis ce besoin aussi de la remettre en question, de la travailler et de jouer aussi à l'intérieur du musée cette méthodologie des points de vue multiples. Je pense qu'une exposition comme un accrochage des collections permanentes comme modernité plurielle, il y a quelques années le disait très clairement.
Non, absolument. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Marie Lavandier parlait du visiteur-acteur. C'est aussi le cas au Centre, hein, qui est aussi invité à participer. Peut-être ça aussi, ça fait partie des éléments intéressants, hein. Il y a des espaces où on déambule et il y a des espaces aussi où on participe. Et ça fait partie des points forts du Centre.
Oui, tout à fait. Et là aussi, dès les premières années du Centre Pompidou, à la fois dans ses activités de médiation auprès du public, mais aussi par la nature même de ses collections. Et la toute première installation vidéo à entrer dans les collections du Centre Pompidou est une installation de Dan Graham, qui, à bien des égards, est une installation avec laquelle le visiteur est invité à jouer. C'est une installation qui jouait sur un phénomène de feedback vidéo, donc de reproduction de l'image du spectateur avec un léger délai, qui a été approprié de manière très, très ludique par les spectateurs du Centre.
Et du coup, c'est une manière de rentrer dans cette création contemporaine qui est quand même relativement complexe. On aura l'occasion d'en rappeler, notamment par rapport à la création numérique et virtuelle. Le musée du Louvre-Lens, hein, s'inscrit tout particulièrement, vous le disiez tout à l'heure, dans un rapport à la médiation, au rôle actif de ses visiteurs, hein. C'est un point sur lequel vous êtes extrêmement attentif, hein, tous ensemble au Louvre-Lens. Et vous avez voulu récemment y introduire des éléments de virtualité avec une réalité virtuelle en lien avec l'exposition Champollion. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que c'était une première, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'était une première de réalité virtuelle qu'on propose au musée du Louvre-Lens, effectivement, d'ailleurs en coproduction avec le musée du Louvre. Une expérience de la découverte par Champollion du temple d'Abou Simbel, qui venait en écho à l'exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes. C'était une expérimentation effectivement nouvelle pour nous. On avait été attaché à l'aspect autobiographique, le récit comme dit à l'oreille par Champollion. Napoléon lui-même. On a été attentif aussi à l'esthétique avec des inspirations d'aquarelles en fait et à la dimension artistique du projet. Pour nous, c'était une expérience parce qu'évidemment, le musée du Louvre-Lens, il entretient une relation particulière au virtuel. D'abord, le virtuel, c'est évidemment au cœur du musée parce que le virtuel et l'imaginaire, je pense qu'on va y venir, sont des choses qui évidemment ont un lien absolument évident. Le musée, évidemment, un lieu qui articule le réel, encore une fois, le corps. Et puis l'imaginaire, le virtuel, les souvenirs, l'enfance, etc. Pour autant, encore une fois, on a vocation au musée du Louvre-Lens à inventer une relation et avec un public inhabituel dans les musées. Et on l'a fait vraiment sur la base de choses qui peuvent a priori paraître contradictoires avec l'usage du virtuel. La médiation, et la médiation chez nous, elle est d'abord humaine. Mais allez-vous me dire, le virtuel, finalement, c'est humain aussi, bien évidemment. Et puis, vous disais-je, le corps, le développement aussi d'autres, la mise en valeur d'autres compétences que purement intellectuelles ou cognitives, en particulier manuelles et artistiques.
Dans le type de médiation qu'on opère. Parce qu'en fait, les visiteurs étaient accompagnés, c'est ça, hein, au Louvre-Lens, par rapport à
cette... Tout à fait. Donc, du coup, cette question du virtuel, vous l'avez dit, on l'a expérimenté de façon complètement nouvelle, avec crainte, parce qu'on a aussi affaire à un public qui est frappé par la fracture numérique, faut le dire, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Pendant le confinement, on l'a expérimenté depuis des années, notamment à travers un petit robot qui s'appelait Ubi, vous voyez, parce qu'évidemment, le virtuel a la magie, enfin, apparemment, de l'ubiquité, qui nous permettait de conduire des visites à distance. Et du coup, à travers cette expérience autour de la découverte d'Abou Simbel, on a expérimenté à quel point finalement le virtuel peut compléter. On a expérimenté le côté aussi très très séduisant, très séducteur du virtuel. Et on a expérimenté, ça on le savait déjà, mais à quel point finalement, et sur le plan abstrait et sur le plan concret, le numérique est un outil puissant de rapprochement. Et l'enjeu, il est bien aujourd'hui d'aller vers... d'inviter dans d'autres dimensions. Donc pour nous, cette expérience, elle s'est inscrite dans une continuité, mais surtout, elle nous confirme que les choses ne sont pas opposables. D'abord, le virtuel, pour moi, il est concret. On parle toujours du virtuel comme si c'était quelque chose qui n'était pas matériel. Il a évidemment une matérialité. D'abord, justement, je vous le disais, il est coloré, il est dessiné, il peut être très travaillé sur le plan plastique. Ensuite, il a une réalité technologique qui, surtout aujourd'hui, n'est jamais oubliable. Et puis à l'inverse, le concret qu'incarneraient les œuvres anciennes dans les musées, eh bien encore une fois, suscite des mondes entiers d'imaginaire, de mémoire collective ou individuelle.
Effectivement, ça c'est un des points que vous soulignez d'ailleurs, hein, Philippe Bettinelli, vous qui, avec Marcella Lista, avez été à l'origine de l'acquisition d'œuvres donc NFT, c'est qu'il y a une dimension... concrète, enfin une dimension créatrice qui finalement n'est pas forcément différente de ce qui a pu être précédemment. Vous avez d'ailleurs écrit, je vous cite, hein, que le phénomène médiatique qui avait accompagné l'engouement pour les NFT a pu donner l'impression que l'art numérique venait d'apparaître, ce qui n'est évidemment pas le cas, parce qu'il existe depuis les années au moins 1960 et sous des formes expérimentales et peut-être moins diffusées.
Oui, alors en effet, on pouvait avoir cette impression trompeuse ces œuvres numériques venaient d'apparaître, alors que les expériences d'art numérique remontent au début de l'informatique et que les institutions y ont
le
été...
Le début de l'informatique, c'est le plan calcul, c'est ça?
Donc on, vraiment, en tout cas, dans les laboratoires Bell aux États-Unis dans les années 60, on fait des expériences... d'art par ordinateur, autour d'œuvres géométriques abstraites notamment, et les institutions vont y être attentives très tôt. On a des expériences d'art numérique au Centre Pompidou dans les années 80, on continue dans les années 90. Des musées non spécialisés dans l'art contemporain, à ce moment-là, vont aussi s'intéresser à ce type de forme de création. Je pense notamment au premier CD-ROM de musée dans les années 90. Et évidemment, tout ça continue jusqu'à nos jours. Alors il y a cependant une part de nouveauté tout de même, hein, bien sûr, avec ces expériences sur la blockchain. Et ce qu'on a vu, c'est notamment avec l'apparition de ces jetons non fongibles, c'est une rupture dans le mode d'existence économique de ces œuvres, et beaucoup d'artistes qui du jour au lendemain ont pu vivre d'un travail d'art numérique qui n'était pas, c'est un euphémisme, le plus valorisé sur le marché de l'art.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que ça donne le sentiment que le net ou l'espace où tout ça se développe est finalement un espace réel. Et d'une certaine manière, comment est-ce que le musée peut donner accès à cela? Est-ce que c'est différent de ce qu'il fait par rapport aux œuvres d'art, finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, là, serait différent, peut-être, Marie Lavandier, dans ce rapport entre la réalité d'un espace virtuel et d'un espace autre des œuvres?
Pour moi, pas tellement. D'abord aussi, effectivement, ça a été dit, l'art, la culture, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont une dimension virtuelle. Je pense à la lecture, par exemple, qui est un moyen puissant d'apparition de d'images, encore une fois, d'imaginaires vastes. On pense beaucoup à la vidéo, par exemple, comme étant plus virtuelle que le cinéma. Je suis encore une fois absolument pas du tout convaincue de la chose. D'ailleurs, les travaux sur le à la fois la caractéristique de l'image vidéo, son obsolescence et finalement sa matérialité aujourd'hui en histoire de l'art le démontrent assez largement. Donc non, pour moi, on a affaire à des terrains infinis dans les deux cas, à travers des processus qui, quoi qu'on en dise, restent quand même à un moment ou à un autre matériel et alors parfois technologiques, parfois plus manuels, plus artisanaux, mais dans les deux cas, expérimentation des terrains infinis finalement de la capacité non seulement créatrice, non seulement de projection d'imaginaire, mais aussi, et je crois que c'est quelque chose qui, enfin pour moi, qui est très important dans le virtuel et dans tout ce qui recèle d'intérêt pour nous, de possibles relations élargies à des échelles mondiales, évidemment, à des échelles interculturelles, à des échelles interdisciplinaires.
Ça, c'est un point essentiel pour les NFT, Philippe Bettinelli.
Oui. Cette question de l'obsolescence technologique, de l'obsolescence des supports, des œuvres, de leur matériel de diffusion, c'est le quotidien de la gestion de collections de ce type. Et je pense que les missions du musée restent fondamentalement les mêmes quand il s'agit également d'œuvres complètement en ligne, d'œuvres de NetArt par exemple, des œuvres qui sont des sites internet elles-mêmes. Le travail de musée, de collecte, de préservation, de remise en contexte et d'accompagnement des publics et je pense de même nature, le besoin en tout cas est le même.
Ouais, ça c'est un point essentiel effectivement, de faire le lien et d'écrire le récit.
L'art et le musée, une collection de Dominique de Fonréau.
Donc dans cette deuxième partie, on va revenir un peu sur cet enjeu du récit du musée et aussi sur l'historique des débats autour de la question du virtuel. Le virtuel est agité par beaucoup, c'est un reproche qui parfois peut être fait au musée, de pas à la fois s'ouvrir assez aux nouvelles technologies, ce qui peut-être pas tout à fait le cas, ou peut-être pas s'y ouvrir en comprenant les enjeux, alors que je ne le crois pas non plus. Mais ce qui est certain, c'est que cet élément de technologie, on l'évoquait tout à l'heure, n'a de sens que si c'est soutenu par un contenu. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie a un intérêt certain, elle s'est beaucoup développée, mais on peut pas simplement montrer des choses sans écrire des éléments. Et peut-être ça, c'est un des points sur lequel les artistes, Philippe Bettinelli, qui crée des NFT ou des jetons non fongibles. Donc, jetons non fongibles, ça fait JNF, c'est ça ? Des JNF, ça. Donc. Des JNF peuvent nous montrer un peu la voie, parce qu'eux, ils sont obligés d'avoir un récit de création. Comment est-ce qu'ils le composent ou elles le composent ?
À partir de cette technologie des jetons non fongibles, on a une variété de création qui est la même que celle qu'on pouvait avoir auparavant pour une technologie comme la vidéo. Ce qui nous a le plus directement intéressé au Centre Pompidou, ce sont les artistes qui, eh bien, utilisaient ce médium, soit pour dire quelque chose de ce nouvel environnement, de la blockchain, la promesse d'un registre de transactions transparent, décentralisé, qui arrive après les crises financières des années 2000. Et puis, d'un autre côté, des artistes qui vont expérimenter techniquement avec eh bien, ce que permet cette blockchain, qui vont vraiment l'utiliser comme un nouveau support artistique à part entière. Et puis, une précision aussi, c'est que parmi ces acquisitions relatives à la blockchain que vient de faire le Centre Pompidou, deux œuvres ne sont pas des jetons non fongibles, et l'une d'entre elles témoigne d'un certain scepticisme, d'une approche critique de certains artistes historiques du numérique par rapport à ces nouvelles formes. C'est une œuvre de Claude Kloski, qui est un site internet intitulé NFT, et qui est une fausse plateforme de vente, une plateforme de vente sur laquelle tout est déjà vendu et sur laquelle on ne verra rien, donc une sorte de machine à frustration, qui témoigne d'une certaine méfiance de certains artistes historiques d'Internet par rapport à cette nouvelle forme de propriété privée du numérique.
C'est intéressant cette mise à distance, parce qu'elle est nécessaire, et vous l'évoquiez aussi, hein, Marie Lavandier, par rapport à l'expérience que vous avez faite récemment, donc d'une réalité virtuelle autour de l'exposition Champollion, hein, qui nous mettait dans les pas de Champollion. Nous étions nous-mêmes Champollion, en fait, à Abou Simbel. Justement, peut-être le public a réagi comment ? Est-ce que vous avez l'impression que ça les intéressait plus, moins ? Est-ce que c'était un contrepoint ? Parce que c'est intéressant aussi, la manière dont le public s'en empare.
Bah, ça intéresse beaucoup le public, c'est quelque chose de très séduisant. Et effectivement, que nous nous attachons à mobiliser, je le disais, souvent en complément d'une expérience peut-être plus matérielle, quoique encore une fois, comme je le disais, l'expérience purement matérielle, par définition, dans un musée, elle n'existe pas. Ce que je trouve très intéressant dans cette question du virtuel, de la réalité augmentée, peut-être ça va vous sembler assez paradoxal, la proximité.
Intéressant, c'est la proximité. Avec
c'est
quoi
la proximité. Ouais. Bah, très souvent avec l'oreille, avec l'œil, croit-on le cœur, le corps, pardon, le cœur bien sûr. Parce qu'on se sent. Donc on parle beaucoup d'immersion, etc. Cette immersion, elle est vraiment très physique, elle est très troublante. On chuchote à votre oreille d'un seul coup, et ça c'est le rêve dans un musée comme le nôtre qui met l'accent sur la médiation, de pouvoir chuchoter à l'oreille de chacun. Je dis avec d'autant plus de plaisir qu'on est à la radio. Et du coup, alors c'est des choses qu'on a pu expérimenter dans d'autres contextes. Je pense à l'inauguration au moment des débuts de l'exposition sur la peinture polonaise qu'on a eu il y a quelques années au musée du Louvre-Lens. On a eu dans le cadre de notre festival de musique classique qui s'appelle Musée Piano, un concert de Momo Kodama qui était un concert de piano virtuel, si j'ose dire. Alors c'est pas virtuel du tout, c'est-à-dire qu'on a une vraie pianiste, un vrai piano, mais l'ensemble des sons est en fait immédiatement transmis virtuellement à distance dans les casques que portent chacun des visiteurs qui circulent dans l'exposition, et vous avez l'impression d'être à l'intérieur du piano, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi je pense on travaille pas suffisamment, mais cette intimité du virtuel, pour moi, elle est un plus en termes de médiation. Je pense aux sons binauraux, je pense à toutes sortes d'autres choses, voilà, ce côté chuchoter à l'oreille ou être immédiatement au plus près de l'œil du visiteur.
Cette dimension intime, certains artistes s'en sont emparés.
Oui, tout à fait. Alors, je pense notamment à une œuvre récente d'une jeune artiste qui s'appelle Caroline de Liotraz, mm-hmm. Qu'elle a mis en place avec le studio 1316 du Centre Pompidou, et en échange avec une youtubeuse spécialisée en ASMR qui va utiliser des effets de proximité du micro pour générer des formes de détente. Et c'était un projet qui s'appelait, qui consistait à faire décrire et toucher des œuvres d'art par cette spécialiste d'ASMR, mm-hmm. pendant la pandémie, pour détendre le spectateur à l'aide des œuvres. Alors, au Centre Pompidou, on conserve aussi une importante collection sonore, qui joue d'ailleurs pas forcément de cette notion d'intimité. Mais dans les salles du musée, on a exploité cette forme d'intimité très forte, qui s'est ensuite généralisée avec les audioguides, dès une exposition de 1985, qui était Les Immatériaux, dans laquelle les visiteurs étaient dotés d'un casque qui, par un système d'infrarouge, permettait de leur proposer une bande-son qui évoluait en fonction des espaces de l'exposition dans lesquels ils se trouvaient.
Et une bande-son qui n'était pas liée réellement aux œuvres, on va en reparler.
Oui, hein. Tout à fait. C'était pas une description des œuvres, c'était des textes littéraires sélectionnés, des œuvres sonores sélectionnées de manière très précise, en échange notamment avec l'IRCAM, pour construire une bande sonore qui soit une autre strate de l'exposition, plus que son explication.
Ouais, ce qui est intéressant pour Les Immatériaux, donc exposition qui avait été présentée au Centre Pompidou d'avril à juillet 1985, donc il y a presque 35 ans, en fait, hein, presque 40 ans, par Jean-François Lyotard, hein, qui était philosophe, et je crois que c'était une des premières expositions qui avait été confiée à un philosophe. Hein.
En fait, c'était à la base un projet du Centre de création industrielle, un organe du Centre Pompidou parmi les plus expérimentaux au début des années 80, sous la houlette de Thierry Chaput, sur les nouveaux matériaux et la création. Jean-François Lyotard a été associé au projet et en a grandement influencé l'évolution, en le liant à ses recherches sur ce qu'il a appelé la condition postmoderne, notre rapport à la connaissance de manière générale, et notamment sa dématérialisation déjà au début des années 1980.
Oui, alors c'est intéressant parce que Lyotard disait qu'il craignait que cette naissance d'une période nouvelle pouvait ou aurait pu détruire une certaine vision humaniste de l'humanité, donc par la crainte de l'avènement des technologies nouvelles. Donc ça, c'est vraiment un point effectivement intéressant. Ce qui était aussi intéressant dans ce projet, c'était que ça mettait en place une conception scénographique qui était pensée avec l'exposition. Et ça aussi, c'est un des points intéressants parce que on parlait des œuvres et du lieu, mais la scénographie aussi, c'est quelque chose d'immatériel depuis longtemps dans les expositions.
Oui, tout à fait. Alors là, il s'agissait d'un système de grilles métalliques suspendues qui, juxtaposées, produisaient un effet de moiré. Les vitrines également étaient suspendues. Enfin, l'ensemble donnait l'impression d'une exposition flottante.
Alors, ce projet aujourd'hui fait déjà l'objet d'une exposition virtuelle. Donc, je trouve ça assez intéressant d'ailleurs de se dire que une exposition qui était portée autour de cet enjeu de nouvelles technologies fait aujourd'hui l'objet d'une exposition virtuelle qui est accessible sur le net. Et puis très bientôt, dès le début du mois de mai, il y a une exposition au Centre Pompidou sur les immatériaux.
Oui, tout à fait. Alors c'est une exposition dossier qui va ouvrir mi-mai, qui va présenter notamment cette documentation 3D de l'exposition Les Immatériaux, que nous avons mis au point avec mes collègues Julie Champion et Marcella Lista dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Beyond Matter sur la documentation d'expositions passées à l'aide d'outils numériques. Donc on a essayé de proposer une sorte de mise en espace de ce que l'on sait de cette exposition, et je dis ce que l'on sait de cette exposition parce qu'en réalité on se rend compte que bien un certain nombre d'informations sur ce qu'étaient les immatériaux ont disparu. C'était seulement il y a 40 ans, mais l'idée c'était de montrer un état de la recherche. C'est une exposition qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est certainement l'un des jalons de l'histoire des expositions au Centre Pompidou, mais dont on se rend compte qu'elle est assez difficile d'approche pour quelqu'un qui ne l'a pas visitée aujourd'hui en raison de ces nombreuses strates d'informations qui s'y trouvent.
Oui, mais ça, c'est la responsabilité de Lyotard, parce qu'il disait qu'il voulait plutôt construire un dédale plutôt qu'un labyrinthe. Donc dédale, on le sait bien, pour s'en sortir, il faut un fil d'Ariane.
Ah, très clairement, et quand on voit les plans de l'exposition aujourd'hui qui s'ouvrait sur une salle qui s'appelait le Théâtre du Non-Corps, tiré de la pensée de Beckett, l'exposition à partir de cette salle s'ouvrait sur 5 parcours différents, consacrés à des notions comme le matériau, la matrice, la maternité, et qui étaient des portes d'entrée dans une exposition dans laquelle très vite on se perdait. Il faut dire aussi que la nature des objets qui étaient présentés dans cette exposition était extrêmement variée. Il y avait des sites consacrés à des questions scientifiques, il y avait des sites consacrés à des œuvres d'art, d'autres à des questions de société qui pouvaient être abordées par des dispositifs qu'aujourd'hui on qualifierait sans doute de dispositifs de médiation, mais qui n'étaient pas pensés sous ce terme à l'époque, et qui, pour beaucoup, n'ont pas été conservés, ce qui est une difficulté complémentaire dans l'approche de cette exposition aujourd'hui.
Ce que je trouve très intéressant, Marie Lavandier, par rapport à ce projet, c'est la manière dont ça met le regard sur les enjeux de conception d'exposition et aussi de conception de scénographie d'exposition. Et d'une certaine manière, la scénographie de l'exposition, c'est toujours virtuel, quoi qu'il arrive, puisque c'est quelque chose en fait dont l'intention peut être matérielle, mais la création l'est toujours. Et au Louvre-Lens, vous y accordez beaucoup d'importance et vous incluez beaucoup de ces éléments que Philippe Bettinelli soulignait d'esprit de médiation. Comment justement tout ça est porté? Parce que je sais que plus qu'ailleurs, c'est quelque chose que vous travaillez très attentivement.
Oui, tout à fait. Alors, dans nos expositions temporaires, effectivement, on s'attache là encore à essayer à chaque exposition de se poser vraiment la question, comme vous le disiez, la question du récit. Et le récit, il est très rarement envisagé du point de vue d'un synopsis, d'un commissaire qui devrait être respecté, transcrit, adapté par un scénographe. Mais il est pensé davantage comme une dramaturgie ou même une création à plusieurs voix, création qui va mobiliser non seulement différents types de spécialités, de spécialistes, d'auteurs, différents types d'œuvres aussi, depuis effectivement, évidemment, les collections d'art ancien qui sont un petit peu le fondement du musée du Louvre-Lens, jusqu'à l'art contemporain, la vidéo, le cinéma, le théâtre, spectacle vivant, la musique, je vous donnais un exemple précédemment. Mobilisation aussi de différentes disciplines des sciences humaines, et puis mobilisation aussi d'artistes, avec, je pense, à l'exposition qui ouvre au musée du Louvre-Lens, avec l'invitation, en plus du commissariat conduit par Vincent Pomarède, mais cette exposition consacrée au paysage, on a choisi d'en confier la direction artistique à un artiste qui travaille sur cette question de la nature, de l'environnement, Laurent Pernaud, et qui propose justement, je dirais pas une scénographie, un environnement artistique à l'exposition, qui permet finalement une espèce de mise en abîme métonymique, l'exposition elle-même devenant un paysage dans ce musée qui lui-même est un paysage. On parlait de la Galerie du Temps, dans ce musée au mur réfléchissant, qui renvoie finalement une image changeante, mouvante de ce paysage minier dans lequel il s'inscrit. Donc effectivement, ce moment de la muséographie, j'aime pas du tout là encore considérer qu'il est un outil au service d'un propos. C'est pas ça qui se joue. L'exposition, elle est un objet quasiment germinatif, en fait, qui d'ailleurs s'inscrit dans le temps. Alors, le musée, c'est une machine à vivre une quantité extraordinaire de temps différent.
C'est l'espace-temps, en fait. Exactement. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'on dit jamais par rapport au musée, on parle de réel, du virtuel, mais c'est que le musée, c'est quelque chose qui bouscule l'espace-temps tout le temps. C'est-à-dire que, par essence, moi, ce que je trouve intéressant, vous écoutant tous les deux, c'est que qu'on parle d'éléments nouveaux, comme les NFT, ou relativement anciens, comme cette exposition Les Immatériaux en 85, ou comme des expositions comme l'exposition Paysage en ce moment présentée au Louvre-Lens, ça parle de l'expérience, finalement. Et pour vous, Philippe Bettinelli, est-ce qu'il y a une expérience différente du virtuel, du numérique, par rapport à l'œuvre concrète, ou comment est-ce qu'on construit cette expérience-là?
Je pense qu'il y a une différence avec une exception peut-être qui sont les œuvres nativement numériques, donc les œuvres qui sont destinées à être expérimentées dans un environnement numérique. Et c'est vrai que dans le cas notamment des œuvres de NetArt, eh bien, le rapport se pose un peu dans un autre sens. C'est-à-dire que la manière normale de les voir, c'est sur un ordinateur, peut-être plutôt chez soi. Et les voir dans un musée est presque une anomalie.
Oui, mais ça, c'est déjà vrai de beaucoup d'œuvres qui étaient faites pour être présentées dans des églises ou dans des éléments cachés, donc, et puis qui sont au musée.
Tout à fait. Dans le musée décontextualise. Hein, c'est vrai que là, c'est pas une nouveauté, en effet. Mais c'est vrai qu'il est rare, à l'inverse, que le virtuel soit le contexte naturel de monstration d'une œuvre. Il y a évidemment une différence essentielle. Je pense que je ne serais pas conservateur du patrimoine si je n'avais pas la conviction que voir un objet dans un musée, c'est une expérience singulière et impossible à reproduire. Je pense, en revanche, que l'expérience virtuelle d'œuvres physiques n'est pas forcément si différente de l'expérience qu'on pouvait avoir de l'œuvre d'art par le livre. Et c'est vrai qu'il y a cette vieille opposition entre la collection et le livre en histoire de l'art comme les deux lieux fondamentaux de la discipline. Et je suis pas sûr que l'expérience de l'œuvre sur Internet soit si fondamentalement différente de l'expérience de l'œuvre par le livre.
Ça, du coup, ça projette dans quelque chose qui va beaucoup plus loin et d'une certaine manière. D'ailleurs, moi, ça renvoie à quelque chose que je pense depuis longtemps, c'est que les débats sur le virtuel aujourd'hui ou sur le net ne sont pas très différents de ceux qui sont nés au moment de l'invention de la photographie, c'est-à-dire autour des années 1840, au début des années 1840, où d'ailleurs il y a eu une résistance très grande des musées par rapport à la photographie, puisqu'il a fallu attendre assez longtemps pour qu'il y ait effectivement des photographes officiels des musées. Hein, il faut attendre les années 1880. Parce qu'il y avait cette inquiétude de changer le rapport. Et quand vous rapprochez finalement le virtuel et l'Internet au livre, on se renvoie sur quelque chose qui est finalement un autre mode d'appréhension, mais qui est quand même un mode d'appréhension absolument essentiel. Qu'est-ce qu'il y a derrière, pensez-vous? C'est une forme d'inquiétude ou la capacité de craindre que le musée ne puisse pas se renouveler en dehors de ses murs ou...
Je pense qu'il y a une forme d'inquiétude historique du musée face au risque, à mon avis, non avéré de son obsolescence. Et c'est là aussi une réflexion ancienne. C'est la question de l'œuvre d'art face à sa reproductibilité technique. C'est la question de la valeur oratique de l'œuvre qui se rejoue là. Je pense que ce qu'on observe dans les faits, c'est plutôt une complémentarité de ces formes d'existence de l'œuvre. On a aujourd'hui des personnes qui viennent téléphone portable à la main à l'accueil du musée, montrant une œuvre et disant « Où est-ce que je peux voir ça ?» C'est, à mon avis, des régimes complémentaire plus que concurrentiel en réalité.
Marie Lavandier, par rapport à ce point du rapport à l'aura du musée, parce que vous êtes aussi très, vraiment, défendez farouchement l'idée de ménager la rencontre entre l'œuvre d'art et les publics. Comment est-ce que finalement la reproduction, la virtualité peut y participer?
Mais comme ça vient d'être dit, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense aussi, au-delà de la photographie, à tous les dispositifs de diffusion des images artistiques, en particulier par le biais de la gravure, qui, à ma connaissance d'ailleurs, n'ont pas créé à l'époque de grandes peurs. Voilà. Donc, je crois que c'est la peur, elle est liée à un sentiment de propriété. Alors même si le musée déplace la propriété de quelques privilégiés qui possédaient ces œuvres pour lesquelles ils étaient créés, au bien commun, enfin plus évidemment en tout cas, je pense qu'il y a une inquiétude qui relève presque de la propriété. Moi, je pense que il y a une puissance de diffusion qui peut tendre politiquement à aller encore plus loin de la démocratisation des œuvres et dont, évidemment, par définition, je n'ai pas peur. Pour autant, c'est évidemment dans la combinaison de l'ensemble que recèle, à mon avis, ce que peut être la puissance du musée d'aujourd'hui et du musée de demain. Alors je pense à des choses aussi plus évidentes avec lesquelles on ne joue pas forcément sciemment, suffisamment en tout cas dans les musées qui sont virtuels. Il y a quelque chose qui est très virtuel tout en étant évidemment très physique, qui est la question de la lumière, qui est essentielle dans les musées et avec lesquelles on a décidé là au musée du Louvre-Lens de jouer. La Galerie du Temps, elle est dans un éclairage zénithal évidemment, mais dans le cas de cette exposition paysage, je crois que c'est un petit peu une première. On a fait le choix de présenter des œuvres dans des lumières qui sont des lumières changeantes et qui, encore une fois, là, viennent ajouter une couche, un truchement qui permet de réaliser qu'en vérité, cette question de des ondes, hein, qui souvent recèlent du numérique, qui souvent recèlent du virtuel, par exemple, et la question du concret, du réel qui s'y opposerait, tout ça n'est finalement compréhensible que dans une seule vision du monde. On vit tous les jours, nous tous, à la fois dans nos corps, dans nos esprits, à la fois dans du matériel, dans du matériau et dans du virtuel.
L'art et le musée, une collection de Dominique de Fonréau.
Alors dans cette troisième partie, on va aborder un peu l'enjeu de ce rapport au sensible que peut souligner, que peut susciter le récit au musée et dans lequel le virtuel s'inscrit, hein, comme le réel. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est presque finalement des modes d'expression, mais pas quelque chose qui remet en compte le fond du musée lui-même. C'est-à-dire que on a pu croire au moment de l'apparition et du développement de technologies virtuelles qu'on se disait, puisque finalement on peut avoir en grand dans son salon une œuvre d'art donnée, le musée ne sert plus à rien. Et c'est pas vrai, le musée sert toujours à quelque chose, fort heureusement. De la même façon, on l'évoquait tout à l'heure, que c'est pas parce que on a depuis les années 1850 des reproductions d'œuvres d'art qu'on ne va plus au musée ou qu'on va plus dans les monuments historiques. Donc ça, je crois qu'il faut effectivement ne pas craindre ces éléments-là, mais au contraire les voir comme des points importants. Pour autant, ce qui me semble, c'est que le virtuel peut être extrêmement intellectuel d'une certaine manière et peut presque être plus complexe à aborder. D'ailleurs, c'est ce qui m'intéressait beaucoup en regardant le projet des immatériaux de Jean-François Lyotard, hein, qui va bientôt être en vedette au Centre Pompidou, donc à partir du mois de mai. C'est que il y avait à la fois chez Lyotard, au philosophe, une sorte de compréhension de la société en transformation des années 1980 et de la manière dont les nouvelles technologies la traversaient et pouvaient la modifier. Mais il avait aussi cette volonté d'une approche sensible. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que son approche sensible, c'était pas seulement le divertissement, mais c'était aussi un rapport au chagrin. C'est-à-dire qu'il le disait comme cela, il disait il ne faut pas que ce soit simplement une approche ludique, mais aussi une approche aussi d'émotions plus tristes ou moins immédiatement positives. Et la question que j'avais envie de vous poser, Philippe Bettinelli, c'est comment la création virtuelle, les expositions virtuelles peuvent jouer dans ce rapport au sensible. Est-ce qu'elles le peuvent et comment peuvent-elles dépasser cet aspect gaming qu'on leur donne assez facilement?
Oui, alors je crois qu'elles le peuvent. Et d'ailleurs, dans les immatériaux, on avait les deux faces de la médaille. C'est-à-dire que dans le même temps, Jean-François Lyotard avait invité un grand nombre d'intellectuels à un exercice d'écriture informatique collectif avec des ordinateurs mis en réseau, un certain nombre de thématiques sur lesquelles des auteurs issus de champs divers se répondaient. Et de l'autre côté, à la fin des immatériaux, on avait un grand ensemble qui s'appelait le labyrinthe du langage et qui proposait des œuvres numériques sur Minitel, sur ordinateur. Donc les deux aspects étaient présents dès le départ. Pour ce qui est du moment qu'on vit, je pense que le mot de gaming est assez intéressant parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est une expérience sensible et une expérience sensible potentiellement très forte. Donc je pense que c'est en tout cas l'un des vecteurs de démonstration du potentiel de ces expériences. On a une tradition de l'art numérique qui est en lien avec une tradition de l'art conceptuel. On peut considérer comme proche, en tout cas plus proche du versant intellectuel que du versant sensible de la médaille, même si je pense que l'art conceptuel est très souvent un art extrêmement sensible. Mais on a aussi des productions très visuelles, des productions immersives qui vont utiliser les spécificités de ces médiums, leur potentiel d'immersion, pour proposer des expériences qui sont avant tout des expériences sensibles.
Ce rapport à la sensibilité des publics, c'est un point essentiel pour vous, Marie Lavandier, au sein du Louvre-Lens. C'est quelque chose que vous souhaitez, faire naître cette émotion, cet émerveillement. Pour autant, c'est pas évident. En fait, une fois qu'on a dit que, et on le pense, je sais, tous les trois, et pas seulement tous les trois, que le musée est un lieu de plaisir, est un lieu d'émerveillement, cet émerveillement, il est pas si simple à susciter. Donc, comment est-ce que le récit du musée peut y inviter et comment l'introduction de nouvelles technologies peut éventuellement y participer?
Je pense que cette question d'émerveillement, elle est de toute manière corrélée directement à la présence de virtuels dans les expositions. J'évoquais la question de la lumière, j'évoquerai aussi quelque chose qui pour moi est très virtuel et qui est un des déterminants de l'expérience muséale, qui est la question du vide. Corrélé évidemment à la question de l'espace.
Il y a une exposition par Laurent Lebon, le président actuel du Centre Pompidou et le président très actif du Centre Pompidou sur le vide il y a quelques années dont on se souvient.
Oui, tout à fait. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est effectivement très important, la question de la lumière, la question du vide, la question du son, je l'évoquais, la question de l'image animée qui viennent renforcer, enrichir, y compris d'ailleurs ce plan du sens, les expositions au musée du Louvre-Lens. Je pense aussi sur cette question d'une dimension intellectuelle qui serait afférente à la question du virtuel. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a affaire à des jeunes générations, et pas une seule, déjà au moins deux à mon avis, voire peut-être même trois, pour qui le monde virtuel est l'équivalent de ce qu'est le monde réel pour nous. Ils y sont comme des poissons dans l'eau, et ils sont très sensibles, notamment, effectivement, vous l'évoquiez, à la dimension fondamentalement sensible du monde virtuel. Moi, j'ai été très, 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 très surprise, très, très frappée de découvrir il y a quelques années déjà à Tokyo, ça a circulé depuis, notamment en Europe, ça va circuler au-delà, découverte de l'expérience Team Lab. Alors, c'est de l'art numérique, mais on a affaire d'emblée, on est plongé dans un monde qui est alors très sensible, très bruyant d'abord, très, très fort sur le plan des images. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation que non, le virtuel, c'est pas virtuel du tout. Ça mobilise vraiment le corps tout entier, dans des proportions parfois, justement, à mon avis, c'est un vrai sujet d'articulation avec la réalité plutôt douce du musée à l'ancienne, dans des proportions qui peuvent même être très très fortes, très presque violentes. Ça engage des sensations physiques extrêmement fortes, à côté desquelles, à mon avis, la vraie peur du musée, d'ailleurs, elle peut être là, à côté desquelles l'expérience réelle, finalement, pourrait sembler parfois, se vider de sa force. Alors ça, c'est le travail de la muséographie, c'est la mise en présence, et puis c'est quand même la puissance ineffable de ces temps qu'on évoquait du musée, c'est-à-dire être mis en présence d'une œuvre qui a été créée il y a 5000 ans, qui a vieilli, qui a été modifiée, qui a été adoptée, qui a été aimée, qui a été soignée, qui a été choisie, qui a été transférée, et en présence de laquelle on est placé aujourd'hui. C'est quelque chose qui me semble finalement ne pas avoir quoi que ce soit à craindre, mais par contre pouvoir être ô combien préparé, accompagné, enrichi, confronté avec des expériences peut-être plus virtuelles. Pour finir, peut-être sur un plan un peu plus de technique professionnelle, j'étais très frappée récemment. J'étais allée voir l'agneau mystique après sa restauration. parce que là aussi, il y a beaucoup à dire sur la question de la restauration physique ou virtuelle, mais après sa restauration à Gand, et alors tout un dispositif de réalité virtuelle est proposé avant qu'on accède à l'œuvre originale. C'est pas mal fait, ça donne beaucoup beaucoup d'informations, ça permet de rentrer dans les détails avec des images qui sont non seulement en réalité virtuelle, mais en plus en très haute définition. Et pour autant, quand on se retrouve devant l'œuvre, il y a une émotion intacte. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient plus devant l'œuvre réelle après avoir passé une heure dans le monde virtuel.
Ça, c'est un des points qui avait été d'ailleurs dénoncé par Éric de Chassey, le directeur général de l'ENHA, il y a quelques temps, qui avait écrit une longue tribune à ce sujet-là. C'est-à-dire que de la mise en rapport, effectivement, vous le soulignez, Marielle Lavandier, il y a un véritable enjeu de la muséographie à installer par rapport à ça et dont il faut trouver le lien. Ça, c'est vrai que c'est un des enjeux d'ailleurs pour l'acquisition d'œuvres numériques, c'est-à-dire comment les NFT que vous venez d'acquérir vont trouver leur lien par rapport aux autres œuvres. Ça fait partie, Philippe Bettinelli, des questions que vous vous posez.
Oui, tout à fait. La question de la monstration de ces œuvres s'est posée très tôt dans le processus d'acquisition. Une des choses qui nous a intéressé, c'est que ces œuvres, en réalité, elles vont avoir une physicalité dans le musée très variée. Certaines sont projetées, certaines demandent des écrans 16/9, d'autres des écrans carrés, certaines sont accompagnées d'objets bien physiques, en deux ou en trois dimensions. Et une des choses auxquelles on a été particulièrement attentif, c'était de lier ces œuvres aux collections plus historiques du musée, et on a décidé de le faire autour de la question du certificat d'authenticité de ces œuvres dites à protocole, dont on ne conserve que des instructions qui permettent de les reproduire à chaque fois qu'on les montre, qui est une tradition qui remonte aux années 1960, et notamment à l'art minimal, et au début de l'art conceptuel. Partant du principe que cette technologie, elle permettait d'abord de fournir des certificats d'authenticité uniques, numériques, inviolables, on a décidé de tirer ce fil de cette histoire de la dématérialisation de l'œuvre en remontant à des exemples qu'on qualifierait aujourd'hui d'historiques.
Ça, c'est passionnant parce que ça souligne ce qu'on disait tout à l'heure, ce rapport au récit du musée et la manière dont le musée est essentiel pour écrire, y compris l'histoire de notre temps. C'est-à-dire que, en fait, tout ça prend sens parce que le musée en écrit le récit. Ce qui est certainement intéressant, vous l'avez évoqué tous les deux dans ce rapport à ces expériences virtuelles, qu'elles soient créatrices ou qu'elles soient d'accompagnement de médiation, c'est que elles font agir le public. C'est-à-dire qu'elles font des visiteurs, des acteurs. Et ça, c'est souvent un des points. Comment faire par rapport à ça? Parce que c'est vrai que on comprend que la posture passive est quelque chose qui intéresse le moins en moins les visiteurs aujourd'hui. Et comment les entraîner à être acteurs? Et est-ce que ces technologies peuvent nous y aider, Marie Lavandier?
Oui, ça, je pense que c'est effectivement une des révolutions principales, à mon avis, des mondes numériques. C'est la possibilité pour tout un chacun d'agir, d'interagir, d'ajouter qui des commentaires, qui peut-être demain aussi des couches de création à une œuvre. Et là, on est pour moi vraiment à l'aube d'un basculement majeur, qui correspond d'ailleurs à un basculement philosophique, vous l'évoquiez, des musées et d'une manière générale de la vie en société, où la question de la participation du public, mais enfin le terme de public n'est même plus valable, il instaure encore une relation que justement il est sujet de dépasser, cette participation devient absolument centrale. Et effectivement, j'évoquais tout à l'heure cette articulation entre l'individuel et le collectif, politique d'ailleurs, que constitue le musée, peut être justement, à mon avis, fondamentalement augmentée, que constitue l'art aussi d'ailleurs, peut être fondamentalement augmentée par cette révolution numérique qu'on est en train de vivre.
Une sorte de mise en réseau, finalement.
Oui, tout à fait. Et à ce titre, je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle très très important dans les années 2010 pour l'évolution numérique des musées et pour cette articulation dont vous parliez entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire ce moment où l'on se saisit d'un élément de la visite pour le partager. Ce que certains musées ont intégré à leur parcours très tôt. J'ai souvenir notamment d'une expérience de visite au MoMA où le système d'audio guide permettait de garder en mémoire les œuvres favorites. Je crois même qu'on pouvait se les les envoyer par email et les partager sur les réseaux. Donc il y a cette implication du spectateur qui va être de l'ordre de l'identité en ligne, de ce qu'on donne à voir de soi en ligne, de ce qu'on emporte aussi avec soi, de la musique, de la visite, pardon.
De la musique aussi.
De la musique, pourquoi pas, du musée, comme physiquement la carte postale pouvait le faire auparavant. Après tout, c'était voilà, un objet qu'on ramenait chez soi et qu'on pouvait aussi partager avec les autres.
Non, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux et leur prise en considération par les musées en interne du musée, puisque c'est quelque chose effectivement qui se passe de plus en plus, hein, que ce soit dans presque tous les musées, c'est que on joue sur cet effet de narration. Et je pense que c'est certainement là où le virtuel peut aussi apporter des mondes nouveaux au musée. On arrive à la fin de cette émission. En vous écoutant, on voit bien effectivement il n'y a pas d'opposition, au contraire qu'il y a un accompagnement majeur, mais ça modifie un tout petit peu quand même, si ce n'est la posture du musée, en tous les cas le rôle des acteurs du musée, et notamment de ceux qui ont la charge de conserver les œuvres, les conservateurs. Philippe Bettinelli, vous qui êtes engagé au Centre Pompidou avec Marcella Lista sur la partie contemporaine de ces œuvres à la fois numériques et virtuelles, qu'est-ce que ça dit?
Ça dit une évolution de ce que le musée conserve, très clairement, qui amène avec elle une évolution des méthodes de conservation elles-mêmes. Et c'est vrai que l'enjeu de la migration technologique, notamment, cet impératif qui fait qu'au fur et à mesure que des supports industriels, les formats de cassettes vidéo, des formats de programmation informatique, disparaissent, le musée doit s'adapter et faire migrer les œuvres vers une nouvelle technologie. Ce qui semble très éloigné des méthodes traditionnelles de conservation de l'œuvre d'art, où la préservation de la physicalité première de l'objet est le cœur du métier. Donc là, il y a une part de la pratique professionnelle qui va être l'accompagnement de l'obsolescence, qui est là, quelque chose qui dit quelque chose aussi de l'époque que l'on traverse.
Et quelque chose du musée.
Et quelque chose du musée.
Est là pour la transmission à long terme, et je pense que c'est aussi intéressant. Peut-être Marie-Léa Bondier, un mot de conclusion?
Oui, ben sur cette question peut-être de la conservation, du rapport au passé, encore une fois, je pense qu'effectivement l'œuvre, on l'évoquait, l'œuvre virtuelle, disons, elle engage des nouveaux modes de conception de sa conservation, de sa préservation. Je pense que cette question du développement aussi d'un certain nombre de technologies dites virtuelles, elle a à voir avec la conservation des œuvres du passé. Elle nous conduit à appréhender le fait que notre propre perception d'une œuvre est de toute façon évidemment fortement mobilisatrice de ce qu'on croit être du virtuel. Hein. J'évoquais tout à l'heure la vision, la lumière, l'ouïe, etc. Je pense qu'elle peut aussi fondamentalement être génératrice de nouvelles manières de considérer l'original, de considérer sa restauration, d'arrêter très souvent, c'est pas nécessaire, hein, d'intervenir physiquement sur des œuvres pour respecter les traces du passé, justement, toute physique qu'elle soit, en travaillant le cas échéant sur une perception améliorée qui est largement permise par les technologies virtuelles.
Merci beaucoup, mais d'une certaine manière, le musée, en étant un monde qui n'est pas tout à fait le monde réel, mais en subtilisant des œuvres réelles pour les mettre dans un lieu, en réinventant un espace et un récit, a peut-être inventé la virtualité. Un grand merci à tous les deux en tous les cas, et je voulais saluer à la préparation de l'émission Sandrine Chaperon et Joseph Julien, à la prise de son Philippe Thibault, à la réalisation Clotilde Pivin. C'était notre dernière émission de l'art et le musée, mais les émissions seront bientôt disponibles sur le site de France Culture. Merci à toutes et à tous de votre écoute.